Chapitre 5. Pressée d'aller retrouver son beau-père sur la grave, Simone décida de garder sa fille dans ses bras le plus longtemps possible, même si la petite se plaignit un peu. Béatrice préférait toujours trotter sur ses courtes jambes sur le chemin de terre. Mais sa mère la tenait fermement sur sa hanche et au bout d'un moment, Béatrice posa sa joue ronde contre le sein de Simone et ferma à demi les yeux. L'enfant sursauta donc en entendant la grosse voix de son oncle Jacquelin, à mi-chemin dans la côte du Sureau. « Bonjour, ma sœur !» clama le curé qui marchait à grande enjambée pour se rapprocher de sa cadette. « Jacquelin, ça va ?»« Absolument, j'arrive de chez une famille. » « Une famille ?» Jacquelin secoua sa tête fournie en émettant un drôle de son réprobateur avec sa langue. « Tut, 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 Simone, il ne faut pas être trop curieuse, c'est un vilain péché. C'est toi qui as... Oh, puis laisse faire. Bon, je te laisse, je dois aller aider Horace, je suis déjà en retard. Bien sûr, je suis fière de voir que mes sœurs sont vaillantes, en tout cas, les deux qui vivent ici. Pour ce qui est de Clémence, j'ai des doutes. » Simone allait répliquer « Qu'est-ce qu'elle a, Clémence? » mais elle préféra se taire pour éviter une nouvelle remarque désobligeante sur sa curiosité. Or, étonnamment, son frère décida que la situation de leur cadette la concernait aussi, puisqu'il se mit à critiquer allègrement la vie de cette dernière. « Je n'ai jamais compris pourquoi vous l'avez laissé partir à Rimouski. Je ne peux même pas m'imaginer ce que les gens doivent dire de ça au village. J'ai bien hâte de la voir pour lui faire entendre raison. Il est temps qu'elle revienne s'installer à Lens-à-la-Joie et qu'elle marie un pêcheur bien travaillant. Je suis pas certaine que ce soit son plan, » susurra Simone en enlevant le pouce de sa fille dans sa bouche. Jacquelin recula de deux pas, croisa ses bras sur son torse et répliqua aussitôt « Comment ça ?» Clémence est assez vieille pour savoir ce qu'elle veut, Jacquelin. J'ai entendu les commentaires sur l'homme qui l'a accompagnée ici dans le temps des fêtes. Je suis bien embarrassée de cette amitié. Je lui ai d'ailleurs expliqué ma déception au téléphone. Je n'ai pas pu lui parler très longtemps puisqu'elle était à son travail. Toutefois, j'espère qu'elle a bien compris l'importance de respecter notre nom de famille. Sylvestre est un homme très gentil, tu sauras, précisa Simone sur un ton où pointait le sarcasme. Même si elle jugeait la relation de Clémence et Sylvestre contraire à ses valeurs, Simone réalisa qu'elle défendrait sa sœur malgré tout. Jacquelin la fixa sévèrement et s'aperçut vite qu'il ne réussirait pas à l'intimider. Simone savait qu'elle ne faisait qu'envenimer la situation, mais c'était plus fort qu'elle. L'attitude de Jacquelin et sa façon de se déplacer dans le village, comme s'il en était le maître, l'agaçaient au plus haut point. Malgré sa foi, la femme aurait préféré que son frère se comporte de manière plus discrète. Si le curé Mathieu avait agi de façon disgracieuse à la messe de Noël, au moins, le vieil homme n'avait jamais été du genre à se promener partout en grand seigneur. Quand Jacquelin avait appris que durant les dernières années de sa présence à Lens-à-la-Joie, son prédécesseur avait délaissé les visites dominicales, il ne s'était pas retenu pour le critiquer ouvertement. Qu'à cela ne tienne, il reprendrait cette habitude et le contrôle de son village. Pour plusieurs, ces visites étaient synonymes d'inquiétude. Lorsque le curé cognait à la porte, les enfants se tenaient alignés sur le divan et ils étaient vêtus proprement. Les villageoises craignaient toutes de se faire servir un reproche sur la façon d'entretenir leur intérieur ou sur les agissements de leur progéniture. « De toute manière, continua Simone, notre sœur est assez vieille pour choisir son mari, tu penses pas? » Jacquelin n'aimait pas son ton et il ne se gêna pas pour le lui laisser savoir. « Tu sauras que c'est doublement mon rôle que de contrôler les faits et gestes de mes sœurs, d'abord comme frère aimant et ensuite comme curé responsable. Si Clémence décide de fréquenter cette personne de manière sérieuse, je vais m'assurer de l'en dissuader. C'est normal dans les grandes villes comme Rimouski de prendre des libertés, mais il y a des limites. Elle ne jettera pas le discrédit sur notre famille. » Simone serra fort la cuisse de Béatrice avec sa main, sans s'en rendre compte, et sa fille protesta. Inspirant profondément, la femme laissa son regard errer derrière son frère pour tenter de retrouver un peu de sérénité. Mais si la mère avait l'habitude de l'apaiser en temps normal, il n'en fut rien. Elle décida que la conversation avait assez duré et se dit qu'après tout, c'était à Clémence de s'arranger avec leur frère. Elle avait assez de ses problèmes comme ça. « Bon, en tout cas, je te laisse », déclara-t-elle. « Je suis déjà en retard. »« Bien, va. » Jacqueline leva la main et fit un petit geste comme pour lui donner congé. Et Simone s'empressa de le dépasser en regrettant de ne pas pouvoir discuter de cette rencontre avec sa jumelle. Dans son appartement de Rimouski, Clémence se préparait justement à quitter la ville pour une semaine de vacances dans son village. Après moult tergiversations, elle avait décidé de faire la surprise à ses sœurs et à son frère, qu'elle n'avait pas vu depuis près de 6 ans. Quand elle avait proposé à Sylvestre de l'accompagner, ce dernier s'était résigné à refuser l'offre, puisque son patron ne lui accorderait une pause qu'à la fin du mois d'août. En cette matinée de la mi-juillet, la jeune châtaigne se hâta donc de fermer la porte de son petit logement, 6 au sous-sol de la maison du docteur Marien. Elle avait promis à son amoureux de le retrouver au parc des Avocats avant de prendre son autobus à 9h15. « 7 jours sans toi, mon chéri, ça va être long », se plaignit-elle à Sylvestre une quinzaine de minutes plus tard. Assise aux côtés de son compagnon, la femme fit une moue enfantine. Discrètement, Sylvestre laissa glisser sa main sur la joue douce en s'assurant qu'aucun passant ne s'approchait d'eux. Depuis qu'ils osaient se promener sans chaperon, le couple faisait bien attention de ne pas échanger de gestes déplacés. Cependant, la tentation était de plus en plus forte entre les deux. Clémence agrippa donc les doigts de son amoureux pour les coincer contre son ventre. « J'aurais tellement aimé que tu viennes avec moi. »« Moi aussi. » chuchota Sylvestre, qui éprouvait de la difficulté à contrôler les élans de son corps lorsque Clémence était si près de lui. Il inspira pour calmer les battements de son cœur et déglutit en jetant un regard tendre sur le visage attristé de sa compagne. Comme si elle sentait son émoi, Clémence leva son menton légèrement avancé. Elle humecta ses lèvres et, avant que Sylvestre ne puisse réagir, elle se rapprocha de lui pour l'embrasser. L'homme, qui craignait toujours les représailles lorsqu'il se trouvait en public, eut un réflexe de recul, mais la jeune femme n'avait pas l'intention de le laisser faire. « Non, » souffla-t-elle contre les lèvres pleines de Sylvestre. « Je t'aime et j'ai le droit de t'embrasser. De toute manière, on est seul. Mais non. » Encore plus déterminée, Clémence glissa ses doigts sous le chandail de son amoureux pour caresser son dos. L'homme frissonna de désir et s'empara avidement de la bouche de sa douce, incapable de résister. Le couple fusionna et n'eût été un jappement un peu plus loin dans le sentier, ils auraient peut-être perdu contact avec la réalité. Bouleversée et gênée, Clémence décolla la première, malgré la chaleur qui parcourait le bas de son corps, l'envie de sentir les mains de Sylvestre sur ses seins et le désir de coller sa peau nue contre la sienne. La femme savait que ses gestes étaient mal, qu'il devrait attendre d'être marié avant de s'y abandonner. Mais s'il y avait un avantage à vivre à Rimouski, c'était le fait que les fréquentations amoureuses étaient moins contrôlées qu'à Lens-à-la-Joie. Les gens les regardaient, bien sûr, car le grand noir détonnait, mais au moins, ils ne mettaient pas leur nez dans les affaires de leurs voisins. « Je t'aime tellement, Sylvestre », chuchota la jeune femme en laissant sa main glisser lentement le long de la joue foncée. « Moi aussi. C'est pour ça qu'il vaut mieux garder nos distances », répondit l'homme en souriant tendrement. Clémence s'apercevait que sa vertu était de plus en plus difficile à protéger, et elle acquiesça en rougissant. Elle prit son petit sac à main et, en penchant la tête de côté, annonça coquettement « Bon, je pense que je vais y aller. Oui, il vaut mieux, Clémence. » Encore vibrant de passion retenue, Sylvestre se leva et replaça son chandail vert dans son pantalon de coton noir. Sa respiration rapide était le seul signe de son émoi, et il sourit tendrement en voyant le chapeau de Clémence qui penchait sur le côté. Se rapprochant de la femme, il replaça le chapeau de paille au joli ruban fleuri et lui baisa le bout du nez. « Voilà, mademoiselle, vous êtes prête à partir dans votre village. » Sylvestre allait ajouter quelque chose lorsqu'une voix masculine se fit entendre. Des pas de course se rapprochèrent et avant qu'aucun des deux ne puisse réagir, un homme massif sauta sur le noir pour le projeter au sol. « Hey !» cria Clémence en panique. « Au secours !» Laissant tomber son sac à main sur le sol, elle se précipita vers les deux hommes qui se battaient sur le sol. son compagnon, plus mince mais plus vif, avait réussi à se déprendre de la poigne solide du policier d'une quarantaine d'années. S'éloignant en vitesse dans l'allée du parc, Sylvestre fixa son regard d'ébène sur le gardien de l'ordre, qui peinait à se remettre debout. « Voulez-vous bien me dire ce qui vous prend, monsieur l'agent? » questionna Clémence en tentant de reprendre ses esprits. La jeune femme tremblait d'effroi lorsqu'elle se rapprocha de son amoureux. Ce dernier, perturbé par ce qui venait de se produire, respirait bruyamment, tout en retirant des brindilles qui s'étaient emmêlées dans ses cheveux crépus. Sa lèvre saignait et Clémence s'empressa de sortir un mouchoir de son sac à main. Elle le tendit à Sylvestre, ses yeux bleus brillants de larmes. Elle reporta son regard sur le policier corpulent qui grogna sur un ton colérique. « Monsieur vous importunait, voilà ce qui me prend. Je vous ai protégé », affirma l'agent, enfin debout. L'homme sortit des menottes d'une poche arrière de son pantalon et s'avança vers Sylvestre, qui ouvrit la bouche pour répliquer. Il n'en eut pas le temps, car son ami le devança, en croisant les mains sur sa poitrine menue. « Mais pas du tout! De quoi parlez-vous? » s'offusqua Clémence en plissant le front. « Je l'ai bien vu, vous toucher le visage. Et alors ?» lança la femme offusquée. Commençant à réaliser les raisons qui avaient mené à cette malencontreuse situation, Sylvestre se tenait à présent le visage fermé. La fureur envahissait son être, mais il savait se retenir. Il avait l'expérience de ses jugements péremptoires. Son regard alternait entre sa compagne et le policier, qui caressa sa grosse moustache brune, embêtée. L'homme se tourna vers Clémence, les menottes pendant au bout de sa main. Incertain de bien comprendre le lien unissant les deux jeunes gens, l'agent poursuivit d'une voix un peu moins affirmée « Un homme de ce genre qui vous touche et quoi? En plus de quel genre vous parlez, voulez-vous bien me dire? » questionna Clémence en faisant signe à Sylvestre de la laisser mener la conversation. La jeune femme, qui auparavant n'avait pas tendance à s'opposer à l'autorité, avait gagné en confiance au cours de la dernière année. Si elle voulait vivre sa vie aux côtés du Grand Noir, Clémence avait réalisé qu'il lui faudrait affronter des abrutis, des gens fermés et des personnes racistes. Alors que Sylvestre avait cru qu'elle ne résisterait pas au commérage, aux commentaires et aux préjugés envers leur couple, c'était le contraire qui s'était produit. D'une jeune femme naïve qui croyait que tout le monde se rallierait derrière eux en constatant leur amour, Clémence était passée à la guerrière prête à tout pour sauver son couple. Devant cette demoiselle au ton sévère et à l'allure distinguée, le policier recula d'un pas pour la toiser. « Vous connaissez donc cet homme, mademoiselle? Certain que je le connais, c'est mon amoureux. » clama sèchement cette dernière en s'emparant de la main de Sylvestre pour la serrer bien fort. Si la situation n'avait pas été aussi sérieuse, le jeune couple aurait éclaté de rire devant la mine estomaquée de l'agent. Ignorant comment réagir, il les fixa l'un après l'autre d'un air incrédule. Il voyait un homme d'une trentaine d'années, au teint foncé et au visage impassible, qui se tenait quelques pas derrière une jolie femme blanche aux cheveux mi-longs châtains et dont les yeux bleus lançaient des éclairs. Embêté et surtout furieux d'avoir cru sauver une demoiselle en détresse alors qu'il n'en était rien, l'homme sortit de sa poche une liasse de feuilles et commença à y noter quelque chose. Clémence le défia encore quelques secondes avant de se tourner vers son amoureux. « Bon, tu viens, Sylvestre, on va quitter cet endroit. » L'imprimeur acquiesça sans parler et le jeune couple vint pour s'éloigner du policier. Mais ce dernier n'avait pas dit son dernier mot. Il leva une large main devant lui et s'écria « Un instant! J'ai un billet à vous remettre! » « Un billet? » Clémence glissa son sac à main en cuir rose sur son bras et retourna sur ses pas pour voir de quoi il en retournait. Mais le policier replaça sa casquette marine sur son front luisant en secouant sa tête. « Pas pour vous, mademoiselle, pour monsieur. Un constat d'infraction. » Sylvestre et Clémence échangèrent un regard stupéfait. Mais alors que la jeune femme allait de nouveau riposter, ce fut son compagnon qui s'interposa. Pour la première fois depuis le début de l'altercation, il osa questionner le policier. « Puis-je vous demander pour quelle raison? Je n'ai rien fait. » L'agent ne jeta pas un coup d'œil en direction de Sylvestre. Il décida plutôt d'expliquer la situation à Clémence, qui voulait hurler de rage devant l'humiliation subie par son compagnon. « Pour vagabondage dans un lieu public. » fanfaronna le policier en tendant le billet. « Pardon? » N'en croyant pas ses oreilles, la femme s'empara du constat tendu par le policier. Ce dernier, revenu de ses émotions, affichait à présent des traits sévères et désapprobateurs. Avant que Clémence ne puisse s'interposer, il précisa d'un ton ferme « Si vous étiez ma fille, jeune femme, vous seriez enfermée dans la maison jusqu'à ce que vous repreniez vos esprits. Quelle honte pour vos parents! Mais j'imagine qu'ils récoltent ce qu'ils ont semé. Maintenant, quittez le parc avant que je décide de vous remettre un billet à vous aussi. » Clémence allait rétorquer, complètement enragée, lorsque son amoureux s'exclama en tirant sa blouse « On s'en va, viens-t'en. Mais Clémence! » Le ton sans réplique de Sylvestre fit rougir la femme, qui prit son sac de voyage sous le banc et suivit son compagnon, qui s'éloignait d'un pas vif. Les deux ne prononcèrent pas un mot jusqu'à la gare d'autobus. Le ciel de ce matin d'été avait beau être clair et pur, les amoureux avaient l'impression qu'un lourd nuage gris s'était installé au-dessus de leur tête. Debout, côte à côte, sur le trottoir de bois, Clémence et Sylvestre ne parlaient pas. Ils réfléchissaient chacun de leur côté, encore choqués par l'injustice vécue. Au bout d'un moment, l'homme se tourna vers son amoureuse, sans la regarder directement dans les yeux. « Je dois aller travailler », annonça-t-il froidement. « Sylvestre, non, laisse faire. On parlera plus de ça. Je te souhaite une belle semaine de vacances. Profite bien de la mer. Tu salueras les membres de ta famille de ma part. » Même s'ils risquent d'être surtout très heureux que je ne sois pas venu encore les envahir. Songea tristement Sylvestre en fermant les yeux quelques secondes de trop. Quand la châtaigne voulut l'embrasser discrètement, il la repoussa fermement. « Pas ici. Bonnes vacances, Clémence. On se revoit à ton retour. » Sans laisser le temps à son amoureuse de répondre, l'homme s'éloigna sur le trottoir. Les larmes que Clémence retenait depuis le début de l'altercation se mirent à couler sans qu'elle arrive à les retenir. Mal à l'aise à l'idée que d'autres voyageurs remarquent son état d'esprit, elle s'éloigna pour sortir discrètement un autre mouchoir de dentelle de son sac à main. Quand l'autobus arriva enfin sur la rue de l'Évêché, la femme empoigna son sac de cuir contenant ses effets personnels et ses vêtements, et elle grimpa les marches, la tête penchée. Elle n'éprouvait plus guère de plaisir à l'idée de passer ses vacances à Lens-à-la-Joie. Clémence avait l'impression d'abandonner son amoureux dans la pire situation. Le non-dit qui avait accompagné l'affront était pire que tout le reste. « Je voudrais le rassurer », pensa la femme. « Lui dire que sa couleur de peau m'importe peu à moi et que c'est ça l'important. » Les yeux posés sur l'immense bâtisse de briques ocre qui accueillait le grand séminaire de Rimouski, elle laissa ses larmes glisser le long de ses joues. « Si seulement j'avais pas prévu partir aussi », songea-t-elle, le front appuyé contre la vitre de l'autocar qui démarra lentement. « Je suis même pas arrivée à Lens que j'ai déjà le goût de revenir près de Sylvestre. » Pendant les premières heures du trajet, Clémence laissa ses pensées errer, alors qu'elle essayait de comprendre les raisons qui amenaient certaines personnes à être aussi méchantes. « C'est quand même un policier, ce bonhomme-là. » Son travail est de se préoccuper du sort de tous les citoyens de sa ville, pas juste des Blancs, me semble. Au bout d'un long moment à cogiter sans trouver de réponse à ses multiples interrogations, la jeune femme finit par s'endormir, les rayons du soleil la réchauffant et le roulement de l'autobus sur le boulevard Perron l'engourdissant lentement. Quand je vais revenir dans une semaine, je vais mettre les choses au clair avec Sylvestre. Il doit arrêter de vouloir cacher notre amour. Je suis certaine que les gens vont finir par s'habituer à voir notre couple dans la ville. » Fut la dernière pensée de la femme avant qu'elle sombre dans le sommeil. « Eh bien, tu parles d'une belle surprise !» s'exclama Simone en ouvrant la porte pour trouver sa jeune sœur sur le seuil de sa maison. « N'est-ce pas ?» rigola Clémence que la longue sieste avait revigorée. Simone s'écarta en essuyant ses mains sur son tablier taché de sauce tomate. Derrière elle, Philomène délaissa son livre d'histoire pour sauter dans les bras de cette tante qu'elle voyait trop peu. « Ma tante Clémence! Salut, mademoiselle Philo! Oh, si c'est pas la belle Béatrice qui arrive en trottinant! Mon doux qu'elle ressemble à... Oh, excuse-moi, Simone! » S'en voulant d'avoir osé comparer la bambine à son frère Éloi, la visiteuse mit sa main sur sa bouche. Mais contre toute attente, Simone hocha tout simplement la tête en passant une main dans les cheveux bruns de Béatrice. Bien sûr qu'elle savait que sa plus jeune était la copie conforme de son garçon disparu. Contre toute attente, plutôt que de la peiner, cette ressemblance la réconfortait chaque jour un peu plus. Puis, comme elle allait rassurer Clémence, un garçonnet de l'âge de sa plus vieille nièce vint se planter entre les deux femmes. Le petit châtain au visage bronzé tendit une main et déclara « Allô, moi je m'appelle Gustave Veillette. Allô Gustave, moi c'est Clémence, je le sais, j'ai des oreilles pour entendre. » Ne sachant si elle devait s'offusquer ou rire, Clémence choisit la deuxième option, alors que les enfants s'éloignaient en courant vers le couloir menant à la cuisine d'été. Béatrice trépigna sur place lorsqu'elle comprit que sa grande sœur n'avait pas l'intention de l'amener avec eux. Avant de sortir par la porte de côté, Philomène expliqua. « Maman, on s'en va jouer à la cachette au fond du champ avec Marie-Joseph. Je peux pas la surveiller comme il faut. » Philomène savait bien que cette seule justification était suffisante pour que sa mère refuse net de laisser la cadette suivre sa grande sœur. Telle qu'anticipée, Simone avisa la plus jeune. « Béatrice, tu restes ici. » L'enfant plissa son visage avec colère et étira ses bras de chaque côté de son corps avant de se mettre à crier. Le son strident fit grimacer Clémence, peu habituée à de telles manifestations. Elle attendit que Béatrice se calme, mais la petite se jeta sur le sol pour affirmer encore plus son désaccord avec la situation. « Ça va faire !» s'interposa aussitôt Simone en levant un index menaçant. Elle se pencha pour remettre sa fille sur ses pieds, mais Béatrice se laissa de nouveau retomber sur le plancher de bois. Profitant du fait que les deux femmes ne semblaient pas se préoccuper d'eux, Gustave et Philomène s'éclipsèrent sans demander leur reste. Clémence s'avança et enleva son chapeau, qu'elle déposa sur une chaise. Une courte pointe fabriquée par leur mère, Carmel, était encadrée et accrochée au mur au-dessus du divan du salon. La jeune femme sourit avec tendresse en se souvenant des moments passés aux côtés de ses parents, pendant que son père fumait sa pipe en sommeillant à moitié et que sa femme concevait des tapisseries colorées. Simone, aux prises avec un bébé qui hurlait de rage, cria à sa sœur de manger un beigne et elle alla déposer l'enfant dans sa chambre. « Tu reviendras dans la cuisine quand tu pourras être une grande fille, Béatrice la Violette, » expliqua la mère d'un ton ferme. Clémence n'entendit pas la réponse de la fillette, mais elle comprit que la crise ne passerait pas de sitôt. Sa grande sœur ferma la porte de la chambre et arriva dans le corridor en soupirant, les mains derrière le dos pour détacher son tablier. « Bon, on va sortir sur le balcon si tu veux, ça va nous éviter de devoir hurler par-dessus la petite. Inquiète-toi pas, elle devrait finir par arrêter d'ici quelques minutes. Mais disons qu'elle a de la Simone dans le corps, celle-là. » ricana la femme tout en laissant la porte de la maison entrouverte. Glissant ses pieds dans ses sandales usées, Simone regarda sa sœur s'allumer une cigarette et s'exclama « Bon, alors dis-moi, en quel honneur tu nous fais une belle surprise comme ça? Je suis en vacances et j'ai eu envie de venir voir ma famille. Tu sais que j'ai réalisé que ça faisait 6 ans que j'avais pas vu Jacqueline? C'est beaucoup quand même! » Se retenant de rétorquer que ce n'était peut-être pas un problème, Simone renchérit plutôt « C'est faux! Il était quand même ici pour les funérailles de papa et maman. « Oui, mais ça compte pas. On n'a pas jasé à ce moment-là. Il était chaque fois pressé de retourner au séminaire. Non, non, je te le dis, je pense que mon frère et moi, on n'a pas vraiment parlé ensemble depuis que j'étais enfant. » Les cris de Béatrice avaient finalement cessé lorsque les femmes s'installèrent dans leurs chaises. « Tu vas rester combien de jours au village? » s'informa Simone. « 1 semaine. »« Wow! » siffla la jumelle. « On rit plus. Madame a de longues vacances. Payées en plus! » Clémence inhala la fumée, les yeux à moitié fermés, et acquiesça sans parler. Le fleuve était magnifique à cette heure-ci, juste avant le souper. Quand son oncle Jean-Julien était venu la chercher à Percé, elle lui avait fait promettre de ne pas avertir ses sœurs de son arrivée. « Je veux leur faire la surprise. » Clémence avait donc déposé son bagage dans la maison du photographe, qui s'était retenu de prendre des nouvelles de Sylvestre Ballant. La seule fois que cet homme avait accompagné sa nièce à Lens-à-la-Joie, cela avait réveillé des souvenirs chez lui de l'unique femme qu'il avait cru aimer un jour. Jean-Julien n'avait pas envie de penser à Marguerite Deslongchamps et de ce qu'aurait pu être sa vie si elle n'avait pas été mariée. Mais Simone, elle, ne se gêna pas pour questionner sa jeune sœur. surtout qu'elle désirait la viser de l'intérêt de Jacqueline pour ses fréquentations. « T'as pas amené ton grand noir? Voyons, Simone, il a un nom. » Se choqua Clémence en se levant pour descendre l'escalier et marcher dans l'allée devant la maison. Elle lança son mégot de cigarette en restant le dos tourné à sa sœur, qui leva les yeux au ciel. Si on ne pouvait plus rire de rien. Mais ne voulant pas être en froid avec sa cadette, Simone descendit à son tour pour la rejoindre. Peu démonstratrice de nature, elle l'entoura tout de même de son bras potelé et murmura « Je sais bien qu'il a un nom, mais sérieusement, c'est encore ton amoureux? » « Oui, oui. Il travaillait, c'est tout. » Simone mordit l'intérieur de sa bouche en hésitant. Par contre, pour satisfaire sa curiosité, elle demanda « As-tu l'intention de le marier, cet homme-là, Clémence? » La jeune châtaine délaissa la contemplation de la mère pour tourner un regard tourmenté vers sa grande sœur. « S'il me fait la grande demande, c'est certain. » affirma-t-elle en taisant tout de même l'inquiétude qui plombait son être depuis son départ de Rimouski. La jumelle hocha la tête, puis elle lança un coup d'œil à Clémence. Elle ne put se retenir de révéler le fond de sa pensée. « Ben, dans ce cas-là, je te suggère d'aviser notre frère de tes plans parce que tu verras qu'il a des idées bien arrêtées sur le sujet de tes fréquentations. Ça m'étonne qu'il soit pas allé te chercher aussitôt qu'il a appris l'existence de ton Sylvestre. Oh, t'en fais pas. Il m'a fait part de sa pensée, mais ça le regarde pas. Je marierai bien qui j'ai envie. »